Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée. L'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Roland Delanoë, qui représente l'association Festival du Pain sur les Planches, qui organise en mai une exposition à Seignos. On en parlera, la drôle de guerre dans les Landes. Bonjour Roland, comment allez-vous ?
Ben, je vais bien, je suis content d'être avec vous.
Très bien, mais nous aussi. On va apprendre plein de choses sur l'histoire des Landes, parce qu'on va dire que c'est quand même votre spécialité, l'histoire oui. Et les Landes aussi.
Ben, j'ai eu la chance de choisir les Landes il y a 54 ans.
Oui.
Et je pense que c'est un choix énorme dans la vie. Et je souhaite à tout le monde d'arriver à vivre là où il a envie de vivre.
Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu ? Bon, déjà, bien entendu, votre association, son historique, hein, parce qu'elle a évolué dans ses missions et dans la forme. Et ensuite, je pense que vous avez des petites choses à nous raconter sur vous aussi, parce que vous avez vous-même une histoire déjà qui est intéressante, je crois.
Merci. Alors, l'association, elle est née à Seignos en 1993. C'est-à-dire que c'est pas mal, hein, c'est une association qui a duré. Moi, on m'a confié la présidence, j'ai été élu président juste avant l'an 2000, en 1999, et je suis réélu président chaque année depuis 25 ans. Alors, l'idée, c'est que personne ne veut prendre ma place.
Oui. C'est souvent comme ça.
Hein. C'est beaucoup de boulot.
Oui, c'est ça.
Mais je suis très content d'arriver, grâce à l'association, à transmettre beaucoup de choses aux jeunes et aux moins jeunes. Style comment on vivait avant, parce que je suis un passionné du patrimoine. Jadis, en 1993 et les années suivantes, on avait la chance de bénéficier des bourdaines à Seignos.
Oui.
Et on avait les bourdaines pendant 15 jours chaque année, c'est-à-dire 15 jours pour faire une exposition d'une semaine.
Ah oui, c'est pas mal.
Parce qu'il faut le temps de monter, le temps de démonter. Et on a réussi à faire des expositions très intéressantes avec un thème à chaque fois. Alors, quand je m'en suis occupé, moi, c'était le bois dans le sport, déjà, parce qu'il n'y a pas un sport qui fonctionnait sans le bois. Même la course à pied, il y avait un relais.
Oui.
L'aviation, sans le bois, il n'y aurait jamais eu d'avion.
Ah oui.
Et le rugby, les poteaux. Alors, plus personne ne sait d'où vient, par exemple, l'origine des poteaux de rugby.
Oui.
C'est très simple, c'est quand ça se jouait en Angleterre dans les villages, quand on n'arrivait pas à différencier deux villages, savoir qui allait remporter, on jetait le ballon, qui était une outre à l'époque, contre un grand chêne. Et les branches le faisaient tomber en zigzagant, et c'est l'équipe qui l'attrapait au vol qui gagnait.
D'accord.
Oui, c'était un dérivé de la soule. Qu'on jouait ici dans le sud-ouest. Mais c'est marrant, je voyais que comme quoi même les poteaux étaient en bois. Ils ne le sont plus tellement en bois, mais
non, je crois pas.
Le bois a toujours servi dans le sport.
Ah oui.
Donc on avait fait des stands sur tous les sports. J'avais eu la chance, par exemple, à l'époque, que l'équipe de France de Souston, d'Aviron, enfin, il y avait trois championnes de France qui sont venues parler aux gamins. Et quand les écoles qui passent et tout, on leur dit, voilà, ça, ce sont des champions de France. Ça peut donner des idées à certains. Et c'est ça, notre but. C'est donner des envies aux enfants d'arranger leur vie.
Très bien. Et donc là, vous organisez donc une exposition à Seignos, qui a lieu du 6 au 11 mai, qui s'intitule « La drôle de guerre dans les Landes ».
Tout à fait. Alors, la drôle de guerre, c'était le terme, je crois que c'est Roland d'Orgelès qui l'a baptisé comme ça, parce que c'était une guerre qui démarrait pas, et puis qui a démarré très vite, et puis qu'on a perdu très vite.
Oui.
Alors, c'est pas une vraie défaite, c'est qu'on n'était pas assez équipé, d'une part, et puis qu'on pensait que la ligne Maginot allait nous sauver comme en 14.
Eh ben oui.
Et puis, les Allemands ont traversé la Belgique, avec, on ne le sait pas trop, mais l'accord du roi des Belges, qui pensait que l'Allemagne allait gagner, et il avait tout de suite tourné sa veste.
Ah, oui.
Et les Belges ne le savaient pas. L'état-major belge n'était pas au courant.
Ah oui, d'accord.
Et vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qu'on a retrouvées dans les archives, qui sont intéressantes. Et puis, la vie des Landais. Alors, j'ai retrouvé la plus jeune résistante du sud-ouest. Elle avait 6 ans. Alors, c'est très marrant parce que tous les soirs, à la tombée de la nuit, elle montait au premier étage, elle regardait la maison d'en face, là où il y avait les Allemands, elle comptait les caleçons qu'il y avait sur la corde à linge. Mmh. Et comme ça, elle savait combien il y avait d'Allemands à l'intérieur. Elle prévenait son père. Quand il y avait 6 ou 8 Allemands, il ne fallait pas qu'on passe par les passages de réseau Comet et tout. Mmh. Les aviateurs qu'on emmenait en Espagne pour qu'ils retournent en Angleterre, ou les aviateurs anglais, américains. Mmh. Puis, si vous voulez, tous ces petits moments de résistance sont plaisants, parce qu'ils sont... On n'en parle pas, on ne sait plus. Il y a eu aussi un jeune garçon qui passait des messages à 6 ans. Mmh. Et lui, le pauvre, il a été tué par une balle perdue. Mmh. Et c'est dommage, mais il ne faut pas l'oublier.
Oui, bien sûr.
Ce tout petit, il était déjà résistant.
Mmh. Mais oui, il y a plein de... C'est que les résistants, des fois, malgré eux ou par... je sais pas
ben, quel... Il y a eu beaucoup, c'était leur choix.
Oui.
Et... Par exemple, je sais qu'à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, il y avait plus de 50% des médecins qui étaient résistants. Mmh. D'abord parce que Vichy était en train de leur imposer une manière de vivre qui ne leur convenait pas du tout. Mmh. Ils devaient dénoncer leurs malades, dire combien ils gagnaient. Mmh. Enfin, et les médecins, ce n'est pas dans leur déontologie.
Oui, bien sûr.
Et il y avait un médecin qui avait trouvé un truc marrant. Tous les jeunes qui devaient partir au STO on leur faisait une visite médicale qui était après contrôlée par les Allemands. Mmh. Alors, le médecin collait une pièce de monnaie sur le torse des futurs soldats, du STO, pardon. Mmh. Et sur la radiographie, ça faisait un gros trou noir. Et pour les Allemands, c'était la tuberculose.
Bah oui,
ils avaient une trouille horrible de la tuberculose.
Oui.
Puis après, vous verrez, dans les Landes, j'ai trouvé plein d'anecdotes... qu'on ne trouve pas dans les livres. Mmh. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le château de Woolsack à Mimizan.
Non.
C'était la demeure du prince de Westminster, du duc de Westminster, anglais. Et lui était en Angleterre à ce moment-là. Son personnel était sur place. Et le 28 juin 40, quand les Allemands sont arrivés à Mimizan, ils vont au château de Woolsack pour le réquisitionner. Et là, ils disent au personnel, on ne comprend pas... votre patron, un homme si riche, il n'y a pas un tableau de valeur sur les murs, il n'y a même pas d'argenterie. Et en fait, le personnel, dans la nuit, avait caché tout ça dans le jardin et ils avaient fait une dune de sable au-dessus.
Ah oui, d'accord.
Ce qui fait que cette dune, ils avaient mis des ronces et les Allemands n'ont jamais pensé chercher dans la dune.
Oui.
Et je trouve que c'était, bon, par exemple, là, c'était 8 employés différents, 8 familles, qui étaient originaires de Mimizan, mais personne ne les a dénoncés. Mmh. Et c'est cette résistance qui m'intéresse.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Et le duc de Westminster, à la fin de sa vie, a donné à chacun de ses employés une maison qu'il avait sur son aérial, enfin sur son terrain.
Oui, d'accord.
Et voilà, tous ces gens-là, personne n'en parle. Et moi, j'ai réussi avec quelques... vieux de sur place, à avoir des informations qu'on ne trouve même plus dans les livres.
Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur l'exposition? Il y a des photos, des illustrations, des documents, des objets?
Énormément de photos, parce que les photos, tout le monde les lit. Tandis que les livres, beaucoup moins de personnes.
Oui, effectivement. Ouais. Sauf les mangas.
Voilà. Ouais. Et il y a des photos très intéressantes. On a choisi thème par thème. Et si vous voulez, ce sera plein de petits... Alors il y aura... une exposition sur le rationnement, pour expliquer le rationnement, pour expliquer les gens qui faisaient la queue. Alors, il y a des photos de gens qui font la queue. J'ai des photos prises par Robert Doisneau.
Ah, oui.
Ce Robert Doisneau a fait la guerre, et en 1939, il a été blessé, il est rentré.
Oui.
Et c'était pratiquement interdit de photographier dans Paris. On n'avait pas le droit de photographier les Allemands.
Oui.
Et lui a réussi à faire des photos volées, des photos cachées. Très intéressante. J'en ai quelques-unes qu'on peut publier. Oui. De toute façon, elles restent dans l'exposition. On ne fait pas de commerce et l'exposition est gratuite pour tout le monde.
Oui, alors ça change de ce qu'ils faisaient d'habitude parce qu'en fait, toutes les photos les plus connues de Doisneau, c'est souvent des photos en fait, qui étaient tout à fait organisées et posées, ont l'air d'être tout à fait prises sur le vif comme ça. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, c'était vraiment mis en scène. En fait.
Oui. Y compris le baiser, le célèbre baiser.
Oui, il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur ça.
Tout à fait, parce qu'il y a une exposition en ce moment à côté de Paris sur les photos de Doisneau. Mais si vous voyez, ce sont des gens qui sont passionnants, parce qu'au début, regarder une photo, tant qu'on ne sait pas trop, c'est votre esprit qui doit parler, c'est votre sensibilité qui doit comprendre la photo.
Oui.
Et si, parce que Doisneau, c'était un type excessivement sensible. Maintenant, comme tous les bons photographes de cette époque-là, il faisait des mises en scène. Comme notre ami Félix Arnaudin a toujours fait des mises en scène. Mais il payait les figurants.
Oui.
Hein, ce qui est...
Alors que le baiser volé, je ne sais pas si ça a été...
Payé ?
Oui, ça a été un peu volé même. Il a été volé en tous les sens, le baiser, d'après ce que j'ai entendu dire, c'était hop hop.
Tout à fait, oui, je pense.
Oui, c'est amusant à remarquer. Bon, on va faire notre première petite pause et on se retrouve tout de suite après pour continuer à écouter toutes ces anecdotes
avec
passionnantes.
Plaisir.
Merci beaucoup. Nous voilà de retour, c'était Graham Wright avec Jusqu'à la ceinture. Un petit clin d'œil à ce que ça peut être des fois la vie de soldat.
Tout à fait.
Et donc oui, nous parlions dans cette exposition, puis alors bon, c'est consacré à, oui, cette drôle de guerre. Alors il y a une confusion pour pas mal de gens, je crois qu'ils confondent beaucoup la grande guerre et la drôle de guerre. Bon, des fois on a nommé l'un pour l'autre, en fait c'est pas du tout la même chose. La grande guerre, c'était soi-disant la dernière, hein, c'est
ce qu'on... La der des der,
oui. Et la drôle de guerre, c'est vraiment le début, une période là, dans les années 40 où en fait, c'est un peu un statu quo, il ne se passait pas grand-chose. Les Allemands ont appelé ça la guerre assise. Ils n'ont pas appelé de la
même manière. C'est ça, ils ont appelé ça la guerre assise.
Oui, voilà, oui.
Et c'est le déroulement d'une guerre, ça dépend de tellement de facteurs, mais ce sont deux états-majors qui sont loin l'un de l'autre, qui ne se voient pas et qui prennent des décisions et qui pensent que c'est la meilleure. Bon, je n'ai rien contre l'armée, au contraire, mais... C'est toujours triste, une guerre.
Oui.
Et ça n'avance pas dans le sens où ça devrait, c'est-à-dire la cesser immédiatement. On voit ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est pas très gai.
Non. Oui, il y a toujours une guerre quelque part, de toute façon.
Voilà. Et bon, mon but de parler de la guerre, justement, c'est pour pas que ça revienne. Et je vous expliquais le début pour comprendre.
Oui.
C'est qu'en 2014, c'était le centenaire de 14-18, et je me suis aperçu que dans les Landes, il n'y avait pas beaucoup de réunions pour comprendre ce que c'est que la guerre. Et moi, qui suis collectionneur du patrimoine depuis toujours, j'ai dit, avec les objets que j'ai, je peux peut-être parler de la guerre autrement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé les expositions de 14-18, les Landais dans la Grande Guerre, à ce moment-là. Et pour vous donner une idée, ces expositions ont eu beaucoup de succès parce que, à l'heure actuelle, j'en ai fait plus de 20.
Oui.
J'en ai fait à Saint-Laurent-de-Gosse, Sainte-Marie-de-Gosse, enfin, j'ai fait les Longs-de-l'Adour, un peu partout.
Oui.
Si vous voyez, tous ces gens-là vous sollicitent assez facilement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intervenants disponibles qui peuvent donner de leur temps. Bon, à chaque fois, il faut le dire, aux communes, on demande une participation pour régler tous nos transports,
les
repas, les frais, ce qui est tout à fait légitime.
Oui, oui.
Mais on s'arrange à ce que pour le public, ce soit toujours gratuit, qu'il puisse profiter, parce que la culture, elle doit être pour tout le monde.
Oui, bien sûr.
À mon sens. Hein.
Oui, oui, mais tout à fait.
Et on a beaucoup de chance, c'est que les enseignants nous suivent beaucoup, et on reçoit pas mal d'écoliers. On s'adapte à l'âge des enfants, toujours, parce que parfois, on a même eu quelques petites maternelles qui se glissaient parce que les enseignants trouvaient que ça faisait une sortie aux enfants.
Oui.
Mais voilà, on demande que ce soit à partir de CE2, CM1, CM2, puis après, les grands des collèges et tout, il n'y a aucun problème.
Oui.
Maintenant, notre discours est adapté aussi aux adultes. Et on s'arrange à ce qu'ils... en ressort quelque chose. Et quand on lit les livres d'or, tous les mots qu'ils nous mettent pour nous remercier... c'est que du pain béni.
Oui, alors c'est vrai qu'on aurait tendance à croire, enfin, vu de l'extérieur, je parlais, les Landes étaient comme un territoire, on va dire, globalement plutôt rural ou semi-rural, avec une densité plutôt faible par rapport à des départements où il y a des grandes villes. C'est pas pour ça qu'autant qu'il ne s'est rien passé et que les Landes n'ont pas donné, versé leur tribu, leur sang pour la guerre.
On revient à la Première Guerre mondiale, pour parler des Landes.
Voilà.
Et il y a quand même eu 12 000 Landais qui ne sont pas revenus, ce qui est énorme par rapport à la population.
Oui.
Bon, maintenant, toute la France était très rurale.
Mmh.
95% de la France était rurale à l'époque, en 14. Voilà. Et les Landais, bon, ils sont partis en disant on est là pour les vendanges, on rentre très vite.
Oui.
Et puis cette guerre a duré 5 ans.
Ben oui.
Hein, on s'imagine mal.
C'est vrai qu'à l'époque, il y a une forme peut-être d'insouciance au début. On ne pensait pas que ça allait être aussi grave, aussi lourd. Quoi.
Voilà. Après, bon, il y a eu le courrier entre les familles et les soldats. Bon, les soldats n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils vivaient.
Oui.
Ils n'avaient pas le droit de dire où ils étaient. Ce qui fait que pour les familles, c'était un peu angoissant. Mais recevoir du courrier, c'était énorme.
Oui.
Et il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1914 jusqu'en 1918, c'était 1 million de lettres échangées tous les jours. 1 million par jour.
Ah oui.
on imagine mal.
Oui, c'est... oui, je ne sais pas si la Poste en fait autant en ce moment.
Non, je ne pense pas qu'elle en soit capable parce qu'il y avait toute une énergie dans les campagnes. Mmh. Bon, on faisait des colis pour le soldat. Le soldat recevait un colis de chez lui avec du fromage de Chalosse. Mmh. Il le faisait goûter aux Parisiens qui n'avaient jamais mangé que du camembert.
Eh oui.
Et il y a eu un échange gastronomique très intéressant entre les soldats. Et les soldats ont appris la gastronomie française dans les tranchées.
Oui,
c'est marrant.
Oui, c'est paradoxal.
Oui, c'est tout à fait.
D'ailleurs, il est midi 25 et c'est l'heure de faire notre prochaine pause pour le Flash Info local notamment. Et voilà, et comme à chaque émission, c'est toujours à ce moment-là que quelqu'un parle de manger. Et ça nous ouvre l'appétit. C'est très français, c'est très landais, c'est terrible.
Tout à fait.
On se retrouve tout de suite après ça. Mm. Et nous voilà de retour. Bon, ça papote pas mal hors antenne.
Tout à fait.
Oui, il y a toujours des choses à raconter. Oui, donc on a parlé de la première. Et puis c'est cette partie, cette partie un peu bizarre, là, cette drôle de guerre là, qui était un peu. La guerre, l'occupation, on a été occupé. En quelle période dans les Landes ici sont descendus jusqu'ici à peu près quelle période?
Au mois de juin 40.
Juin 40, ouais.
Oui. En juin 40, ils sont arrivés partout dans les Landes. Bon, les Landes, géographiquement, c'est très intéressant. C'est toute cette ouverture sur l'Atlantique. Et si vous voulez, bon, les Allemands ont décidé très vite de construire l'Atlantic Wall, le mur de l'Atlantique, depuis le nord du Danemark jusqu'au Pays Basque. Mmh. Et alors, c'est intéressant parce que les Landais... beaucoup d'entre eux ont travaillé sur ce mur de l'Atlantique parce que je me souviens un jour, j'étais à Souston et puis les vieux, je leur racontais une histoire, ils m'avaient traité de collabo.
Ah oui ?
Alors j'ai dit c'est marrant parce que pendant la guerre, ce sont les Landais quand même qui ont travaillé sur tout ce mur de l'Atlantique parce que j'ai jamais vu un Allemand pousser une brouette pendant la guerre.
Ah oui.
Voilà. Ils s'étaient excusés mais ils avaient mis le temps. Hein.
Ah oui.
Mais en fait, quand on s'intéresse à ce qui s'est passé. Bon, moi, j'ai la chance de parler l'anglais couramment, de comprendre bien le français. Et puis, c'est vrai que le gascon, je me mets doucement, petit à petit. Mm-hmm. Mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère parler allemand avec des Allemands.
Mm-hmm.
Pas par collaborationnisme, mais je dis, les Allemands qui viennent dans les Landes l'été, ce ne sont pas eux qui nous ont fait la guerre.
Ben non.
Ce n'étaient pas eux, les nazis.
Non.
Et quand je vois qu'en France, il y a des parties de jeunes maintenant qui font le signe nazi, je trouve ça triste. C'est parce qu'il y a un manque d'éducation au départ.
Oui, oui, on dit souvent que, comment dire, je sais pas si on attribue beaucoup de citations à Confucius, mais qui disait que l'homme était le seul animal à trébucher plusieurs fois sur la même pierre.
Tout à fait, mais Confucius, c'était le plus grand sage.
Oui. Bon, après, on lui fait dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est vraiment de lui, mais...
C'est plus facile de dire que c'est de lui, parce que maintenant, on va dire que c'est de l'intelligence artificielle. Ça va être très différent.
Ouais, mais ça date d'avant, j'en suis sûr.
Oui. Moi aussi.
Oui, donc c'est le problème de l'histoire. Hein. C'est ça qui est terrible, en fait. D'ailleurs, elle est attaquée, l'histoire, d'ailleurs. Quand ça arrange les dictateurs, il faut la changer
toujours,
un peu.
Toujours. Et ce qui est triste, c'est qu'à l'école, souvent, vous êtes bien placé pour le savoir aussi, parce que vous aimez l'histoire.
Oui.
On nous apprend l'histoire qui arrange les gouvernements. On ne nous apprend pas la réalité. Et dans l'exposition, moi, je parle de la réalité, de ce qui s'est passé. Là, je suis tombé sur une histoire folle d'une femme qui, la pauvre, avait des jumeaux. Et quand elle allait chercher les tickets de rationnement, ils ont dit qu'elle n'avait qu'un enfant parce qu'il y avait Michel qui était né le 28 juin. Et puis Marcel, qui était né le 28 juin.
Ben oui.
Pour eux, pour l'état civil, ils ont pensé que c'était Michel Marcel. Enfin, voilà. Et la femme, toute la guerre, n'a jamais réussi. Elle est allée dans les bureaux avec ses jumeaux et tout. Ils n'ont jamais corrigé cette erreur. Et c'est triste.
Et oui, du coup, elle manquait forcément de nourriture.
Elle avait quatre fois rien pour manger. Elle se privait de tout pour que ses enfants puissent manger. On n'imagine pas les problèmes que ça a donné, ce manque d'alimentation. Et les gens se battaient presque. Bon, ils faisaient la queue sur les photos, ils ne bougent pas.
Oui.
Mais il y a des gens qui essayaient de tricher, de passer avant. Dès que sur la vitrine, il y avait marqué « plus de pain », le boulanger, il ne disait pas que c'est parce qu'il n'y avait plus de farine, il disait qu'il n'avait plus de bois pour chauffer son four. Et tout à l'avenant, on trouvait plein d'astuces pour essayer de contenir ces populations.
Oui.
Mais quand on voit les rations données... Alors par contre, les autorités avaient dit, si vous apportez du plomb, du cuivre et tout, on vous donnera un bon pour un litre de vin, pour 200 grammes de cuivre.
Ah oui.
Ce qui est marrant, moi j'ai retrouvé les affiches tout. Et vous verrez, dans l'exposition, il y a plein de petites choses comme ça qui expliquent les petits détails d'à côté.
D'accord, le quotidien.
Voilà, le quotidien de tout le monde. Cette histoire de jumeaux, vous ne l'avez pas entendue avant.
Non.
Et pourtant, voilà, c'est l'incompétence d'un bureau d'état civil qui a fait que cette pauvre femme a eu un mal fou à nourrir ses enfants.
Ah, oui, c'est une anecdote un peu triste, oui.
Oui, mais il y en a plein.
Ah, ça...
Quand on voit que vous avez quatre patates pour tenir une semaine et que vous n'avez rien d'autre, c'est un peu dur. Alors les médecins aussi de campagne, tous les médecins en voulaient beaucoup au gouvernement de Vichy, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais à la campagne, les médecins étaient souvent payés en nature par les paysans, ça arrangeait tout le monde, mais pendant la guerre, les paysans avaient beaucoup moins de surplus,
parce
qu'on leur achetait depuis les villes, les Allemands ont réquisitionné une partie, mais ces pauvres gens de la campagne n'avaient pas d'argent non plus. Donc le médecin les soignait, ils ne pouvaient pas se faire payer. Il leur faisait cadeau, en disant on se rattrapera plus tard. Mais ça a été des moments, vous voyez, des petits détails comme ça. Si on les aligne les uns avec les autres, on s'aperçoit qu'on vit quand même mieux maintenant.
Oui, parce que le fameux « c'était mieux avant ».
Moi je suis pour le « c'était mieux avant », mais pas pour cette période-là. Mais j'ai plein d'anecdotes sur « c'était mieux avant ». Parce que le livre que j'écris pour mes petits-enfants, c'est pour leur expliquer que c'était quand même beaucoup mieux avant.
D'accord. C'est la dernière pause qu'on va faire de suite. On se retrouve après pour la dernière partie de cette émission.
Avec plaisir.
On fera les petits rappels sur la date qui vient et votre actualité. À tout de suite.
Bien sûr. Merci.
Et nous voilà de retour pour la petite dernière partie de cette émission. Il ne faut pas qu'on oublie de reparler quand même. La drôle de guerre dans les Landes, exposition à Seignos.
Du 6 au 11 mai, à la salle Vidal, c'est la petite salle très intéressante qui est devant l'église. C'est l'ancienne mairie et il y a un sol de bidache magnifique, des pierres très belles. Et c'est de là que sont partis les soldats pour les deux guerres.
Ah, d'accord.
Ils ont foulé ces pierres et on peut fouler les mêmes.
C'est une petite occasion de vous parler un petit peu de votre trajectoire, parce que je crois que vous avez une formation d'historien. On peut dire que vous êtes
pas
historien. Non, vous n'êtes pas historien.
Non, beaucoup de gens le pensent.
Oui.
Mais pas du tout. Ma formation, j'ai commencé avec en travaillant un BTS du tourisme. À l'époque, c'était un examen qui était nécessaire pour ouvrir une agence de voyage. Puis j'ai travaillé pour différents patrons d'agences de voyage. Et c'est très sympathique parce que vous travaillez avec 6 ou 7 téléphones sur le bureau et chaque téléphone, c'est 10 ennuis à régler dans la journée.
Ah oui.
Ensuite, vous rédigez des billets pour Tahiti et vous êtes dans un sous-sol au néon, dans le troisième sous-sol, en train de flipper. Ce qui fait que très vite, j'ai tout abandonné. J'ai quitté un bon salaire parce que j'avais envie de vivre à la campagne et dans les Landes. Et j'ai très bien fait parce que j'ai mis 2 ans pour trouver ma maison dans les Landes à Saubion. Mais dès que je suis arrivé sur place, j'ai dit c'est là, c'est pas ailleurs, cherchons plus. C'est là et je suis tombé amoureux d'une vieille ferme landaise. J'ai une femme landaise aussi, j'ai été chercher à Garin. Alors c'était très difficile parce qu'elle était beaucoup plus jeune que moi. Et c'était une des plus jolies à Garin. Donc j'avais tout Garin contre moi. Et ça c'est très dur quand on est un étranger.
On le reste longtemps, mais vous l'êtes plus maintenant. Vous n'êtes plus un étranger.
Je le suis plus, mais j'ai envie de le redevenir. Pour de temps en temps leur dire que ça sert à rien. Ostraciser les gens comme ça.
C'est l'avantage d'avoir un petit peu de recul, de voir un coup d'œil depuis un peu l'extérieur, voir les choses, c'est différent.
Mais je pense que si en grandissant en âge, on n'arrive pas à avoir du recul, c'est triste. Parce qu'avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, on peut donner des conseils. Pas des ordres, mais des conseils.
Oui, bien sûr, des conseils.
Voilà. Et c'est pour ça que je suis très content de transmettre tout ce que je peux transmettre sur l'histoire aux scolaires et puis aux adultes.
Est-ce que vous avez la chance d'être grand-parent ou pas?
Je vais vous dire une chose. Grand-parent, c'est le papy-mamie, c'est le meilleur moment de la vie.
Il y en a qui disent
Il y a une chose, je le dis et je le maintiens. Sauf que maintenant, être papy, c'est super, mais il faut être milliardaire. parce que ça coûte très cher d'être papy en ce moment.
Et oui, oui.
Dis donc, papy, j'ai pas réussi à payer mon forfait. Tu ne crois pas qu'il faut que je change de téléphone ?
Oui, 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 je comprends.
Alors,
oui.
J'ai 6 petits-enfants.
Ah oui. Ah oui, c'est pas mal.
4 au Pays Basque et 2 dans le Béarn.
Alors du coup, la transmission, hein, la transmission, les histoires, les anecdotes, etc., là, je pense que ça doit être, ça doit faire partie d'une tradition.
Bien sûr, mais comme par hasard, c'est moi qui apprends plus d'eux que de moi. C'est fou, hein ?
D'accord, sur quoi ? Sur des choses
Toutes sortes de choses.
Oui, oui.
Et j'ai un petit-fils très drôle, le petit Béarnais. Il a un humour, je pense que vous le recevrez dans votre émission dans quelques années.
D'accord.
S'il est plein d'humour et il est très à point. C'est-à-dire qu'il est comme moi, il chope l'actualité puis il sait la redonner.
Ah oui, donc oui, il a le... Il a attrapé le virus.
Complètement, du grand-père, voilà.
Ah oui, c'est bien, c'est un bon virus.
Oui, oui, tout à fait.
Et oui, alors, ça fait combien de fois que vous faites cette exposition ? C'est la première, mais vous en avez fait pas mal.
Sur la Première Guerre mondiale, ouais. je crois que c'est 22 en tout.
D'accord. Ouais.
Alors, j'en ai fait plus de 20. Et je la fais chaque année à Seignos, à la salle Vidal, la Première Guerre mondiale, au mois de novembre, pour le 11 novembre.
Oui.
Et à chaque fois avec un petit truc en plus. Ça, c'est Artus qui m'a appris, il faut toujours rajouter quelque chose.
Un petit truc en plus, ouais, c'est ça, le petit plus. Ouais.
Ouais. Un petit plus, comme ça les gens reviennent et puis ils découvrent quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc c'est intéressant.
Oui.
Et puis je vois comment ils approuvent tout ce qu'on fait en mettant un petit mot sur le livre d'or
à chaque fois,
c'est énorme.
Oui. Comme on disait tout à l'heure aussi, vous avez une relation avec les scolaires forcément, parce que ça fait partie de la période de la vie où on apprend les choses dans l'histoire, hein, c'est important.
Tout à fait, et beaucoup d'enseignants m'ont mis dans le livre d'or que c'était un super cours d'histoire et qu'eux n'avaient pas les moyens de le faire parce qu'ils n'avaient pas tout ce matériel, mais que ça leur faisait beaucoup de bien. Ils me disent que même eux apprennent énormément avec moi. Donc, vous voyez, transmettre, ça fait du bien.
Oui, oui, c'est tout à fait, oui.
C'est donner un sens à sa vie, c'est énorme.
Très bien, c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire ici.
Je vois, oui.
On fait le lien, en tout cas, entre votre bouche et l'oreille des auditeurs. Hein. On est le média.
Tout à fait, le média.
Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, de mettre en avant un peu les compétences locales qui enrichissent le territoire. Et quand on entend des gens dire des fois, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Ouh là 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 là, il faut se réveiller.
Je ne me suis jamais ennuyé de ma vie.
Ouais. Ouais.
Et quand les gens me disent qu'ils s'ennuient, je suis triste pour eux. Parce qu'on ouvre un livre, on fait quelque chose, on ne s'ennuie pas dans la vie.
Non, et puis il y a plein d'activités.
Il y a tellement de choses à voir.
Puis s'il y a plein d'activités, les associations, les expositions, les concerts et tout, que sais-je.
C'est énorme.
Oui, il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Voilà. Ben, écoutez, c'est le moment de se séparer. Hein, merci pour ce moment, si le titre n'est pas de moi.
C'était une première fois et ce n'est pas la dernière, j'en suis sûr.
Oui, mais j'espère bien. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour ce...
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, merci.
Plein de bonnes choses.
Merci.
Et merci à tous ceux qui viendront à l'exposition.
On espère qu'ils seront nombreux. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.